RSP.
Mes chers compatriotes,
in American history,
nosso ministro da saúde,
nous sommes en guerre.
RSP.
Nous sommes seit Anfang der Woche die verschärften Grenzen.
Nous vivons depuis quelques semaines une crise sanitaire sans précédent.
Le mardi 23 juin dernier, le club Web Radio du lycée Pasteur de São Paulo a eu la chance de recevoir en visioconférence pour une interview croisée le proviseur du lycée et le directeur de l'AFE. Olivier Brochet, directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, a commencé par nous transmettre sa préoccupation et son soutien au regard de la situation sanitaire au Brésil.
Depuis la France, hein, on connaît la situation du Brésil. Et voilà, on pense beaucoup à vous dans cette situation, beaucoup aux élèves, à leurs familles, à tous nos enseignants qui sont au lycée de São Paulo comme dans les autres établissements du Brésil. Et vraiment, on est de tout cœur avec vous, hein, dans cette période qui est difficile pour tout le monde, hein, qui est difficile pour vous, les élèves, on le sait bien, parce que bah, votre année scolaire, elle s'en ressent dans son organisation, dans son fonctionnement. Ça s'en ressent pour vous, et je comprends que je suis en ligne essentiellement avec des élèves de terminale, donc pour vous, c'est aussi source d'interrogation, j'espère de pas trop d'inquiétude en tout cas, mais sachez qu'on est vraiment de tout cœur avec vous, aux côtés de votre équipe de direction, aux côtés de vos enseignants, pour vous aider à passer cette année vraiment très particulière dans les meilleures conditions possibles, et puis en tenant compte des difficultés que vous rencontrez, en essayant de trouver les solutions avec toute l'équipe qui travaille au lycée. On est vraiment très très attentif, et c'est l'occasion pour moi, monsieur le proviseur, de vous remercier, de remercier toute l'équipe de direction, de remercier tous les enseignants pour leur engagement tout à fait exceptionnel. J'espère que pour les élèves, ils partagent ce sentiment et ces remerciements, mais on sait que c'est très difficile partout. Personne n'était préparé à vivre une situation comme celle que nous devons affronter tous ensemble. Donc on essaye, depuis maintenant plusieurs mois, on essaye d'innover, de construire une réponse cohérente à la hauteur des enjeux, avec un seul objectif, un seul souci permanent à l'esprit, c'est nos élèves. Nos élèves, parce que nous travaillons pour vous, nous souhaitons que vous bénéficiez au mieux de ce temps de scolarité passé dans nos établissements, dans cet établissement de São Paulo en particulier, et de faire que voilà, les objectifs qui sont les nôtres pour vous, qui ont amené vos familles à nous faire confiance, à faire confiance à l'enseignement français à l'étranger, ben, nous les atteignons. Nous les atteignons avec des moyens différents de ceux qu'on mobilise d'habitude, mais on ne perd pas de vue le cap. Et donc, on est vraiment avec vous, à vos côtés, pour vous aider. Mais voilà, je vais m'arrêter là sur ces quelques mots liminaires, et puis ben, je vous passe la parole pour répondre bien volontiers à vos questions.
Bonjour, nous avons la chance de recevoir Olivier Brochet, nommé directeur de l'AEFE le 4 mars 2019. Ancien élève de l'ENA, agrégé d'histoire-géographie et conseiller hors classe au ministère des Affaires étrangères. Avec nous également, M. Christophe Mirand, proviseur du lycée Pasteur. Ensemble, nous les interrogerons sur cette période très particulière de confinement, le lycée français à l'étranger et le baccalauréat 2020. Bonjour à tous les deux, ainsi qu'à nos intervieweuses, Caroline Alessa, Lisa Alessa, Marine Hamon, Léon Fournier, Julie Cadilla, Inès Coutonnel et moi, Marie Dumonti.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour monsieur. Alors, notre première question.
Puisque les épreuves du bac ne seront de toute façon pas les mêmes, les terminales de cette année, Rythme Sud étant la dernière génération à passer l'ancien programme du bac, comment s'effectuera la sélection au moment de l'entrée dans le supérieur?
Tous les éléments ne sont pas encore définitivement fixés, évidemment, pour les établissements de Rythme Sud, parce que on observe l'évolution de la situation, comment se passera la rentrée au retour de vos congés du mois de juillet, si je ne me trompe pas. Et donc, en fonction de ça, bien entendu, il faudra que nous déterminions avec précision tout ce qui va pouvoir être fait d'ici la fin de votre année scolaire. Nos objectifs, ils sont très très clairs, hein, c'est que même si nous devons recourir à d'autres moyens, nous voulons garantir à nos élèves qui passent le baccalauréat ou qui passent le brevet, hein, je pense aussi à eux qui sont dans la préparation d'un examen national, la garantie qu'ils passent cet examen sous quelque forme que ce soit dans les meilleures conditions possibles et que la qualité du travail qu'ils ont effectué depuis des années, des mois avec nous, soit bien reconnue pleinement au moment de l'attribution de ce diplôme national du baccalauréat. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement la forme que nous pourrons donner, parce qu'on fera un point, je pense, au mois d'août, avec l'ensemble des équipes de direction des établissements de Rythme Sud et avec le ministère de l'Éducation nationale, qui a la charge de l'organisation de ces épreuves. On fera tout ce qui est nécessaire pour que ce baccalauréat 2020 ou ce brevet 2020 se fasse dans votre intérêt. Nous sommes en train de le faire avec tous les établissements du Rythme Nord. Vous savez que pour eux, les modalités qui ont été retenues ont été celles du contrôle continu. Et donc actuellement, les élèves, les jurys plutôt, puisqu'il n'y a pas d'épreuve organisée physiquement, mais on est dans une période d'examen par les jurys du baccalauréat, se fait sur une base différente, sur l'examen des dossiers scolaires, sur les évaluations qui ont pu être faites tout au long de cette année, l'attribution du baccalauréat, j'en suis sûr, se fera dans des conditions qui reconnaissent bien la qualité de nos élèves. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Les parcours sont solides, les résultats sont, j'imagine, chez vous, comme dans beaucoup d'autres établissements, toujours excellents. Et donc, au final, dans l'examen de cet examen national, la reconnaissance est identique, au bout du compte, pour les élèves. Donc voilà, je ne peux pas vous dire tous les détails de ce qui sera fait, parce que c'est un travail qui est en cours et qui se fixera définitivement prochainement, en fonction de l'évolution de la situation, et on a encore un petit peu de temps avant d'arriver au moment de la validation de votre parcours scolaire par le baccalauréat. Mais voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on est, et donc si moi je vous incite à deux choses. D'abord, c'est la confiance, parce que voilà, ce baccalauréat, je ne doute pas que si vous êtes des bons élèves, vous l'aurez très bien. De ne pas relâcher, en revanche, l'effort pour autant, parce que c'est pas parce qu'éventuellement il se passera dans d'autres conditions qu'habituellement que pour autant on ne regardera pas que justement l'effort ait été continu, soutenu de la part des élèves, parce que c'est pas parce que le baccalauréat se passe dans d'autres conditions cette année qu'il est donné. Donc il faut aussi le gagner, et le gagner par son travail régulier, intensif, évalué par les enseignants qui vous accompagnent. Alors après ça, il y a un autre élément de votre question qui est l'après-baccalauréat. Et là, il y a toutes les procédures liées, pour ceux en tout cas qui viennent étudier en France, dans Parcoursup, hein. Et là, en la matière, nous sommes en relation aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre du comité de pilotage de Parcoursup. Et soyez assurés que là aussi, la situation des élèves qui auront passé le baccalauréat, que ce soit enfin en rythme sud, sera prise en compte de façon tout à fait attentive par l'ensemble du comité pour garantir que, comme les années précédentes, vous puissiez bénéficier de ce processus très particulier à l'enseignement supérieur français, mais en tout cas, soyez assurés que il n'y aura pas de mauvaises surprises en la matière.
Nous voulons ensuite vous demander comment s'assurer que le bac ne perdra pas de sa valeur. La session 2020 du bac sera-t-elle dévaluée?
Non, non, elle ne sera pas dévaluée. Pour les raisons que je vous ai dites, c'est que on évalue traditionnellement. L'évaluation des qualités des élèves, de leurs compétences, se fait dans le cadre d'un examen unique, présentiel, mais enfin qui lui-même, au moment de l'examen final de la réunion du jury, se fait aussi en ayant un œil sur le livret scolaire de l'élève, pour quand il faut éventuellement faire des ajustements ou des corrections. Donc on regarde ça. Là, non, il n'y aura pas d'évaluation parce qu'on va faire très attention à valider la réalité, la qualité du travail qui a été accompli. Les jurys de délibération sont des jurys traditionnels qui peuvent évaluer de façon différente, mais qui sont la même composition, la même organisation, et donc ils posent les mêmes questions et le même regard sur les résultats qui leur sont présentés. Il y a des mécanismes qui permettront de s'assurer qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, une forme. Je dirais pas, c'est pas une forme de péréquation, mais c'est le cas échéant si on constate que par rapport. Je vais prendre un exemple caricatural, un établissement où on connaîtrait, où on saurait que les élèves sont notés plus durement peut-être que dans d'autres, et que ça pourrait se ressentir sur le résultat de leur baccalauréat, alors que ça ne se sentirait pas s'ils passaient les épreuves en présentiel. Eh bien, pour cela, on a des mécanismes qui nous permettent de voir la réalité de l'établissement, la réalité de sa notation, et le cas échéant, si ça pose un handicap aux élèves de prendre cela en compte pour le corriger. Tout ça est bien analysé. Et tout ça, je vous dirais, si on est sur l'hypothèse d'un bac qui se fait dans les mêmes conditions que le rythme nord actuellement, tout ça aura été bien rodé également par vos camarades qui passent le baccalauréat en ce moment. Et donc, vous bénéficierez de la même approche, mais je n'ai vraiment aucune inquiétude sur le fait que le baccalauréat ne sera évidemment pas dévalué et que la réalité des qualités des élèves qui passent le baccalauréat sera bien prise en compte dans la notation finale et y compris dans les mentions.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ensuite, nous voudrions savoir comment les lycées français du réseau AEFE feront-ils face aux possibles difficultés financières des parents à la suite de la crise actuelle?
Alors, vous le savez, c'est un point qui est suivi de très très près, non seulement par l'agence, mais qui est suivi de très près par l'État français depuis l'apparition de cette crise. Et les ministres, et en particulier le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est notre ministre de tutelle sur l'ensemble du réseau de l'enseignement français à l'étranger, se sont exprimés à plusieurs reprises pour dire plusieurs choses. La première, c'était qu'ils suivaient attentivement la situation de l'enseignement français à l'étranger, auquel la France s'est particulièrement attachée, et qu'elle ne laissera pas tomber les établissements en difficulté. Ça, c'était la première chose. Et donc, l'agence est chargée par le ministère, par l'État, de soutenir, de suivre la situation de tous les établissements et de soutenir les établissements qui en ont besoin dans cette période difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième grand axe qui a été défini par nos autorités, c'est de faire jouer la solidarité nationale à l'égard de toutes les familles en difficulté, que ce soit des familles françaises par l'intermédiaire du système des bourses, ou les familles étrangères également qui font confiance à l'enseignement français et qui, si elles se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficile parce que leur situation économique s'est dégradée en lien avec la crise, peuvent bénéficier d'un soutien de leur établissement, soutien qui lui-même est soutenu par l'agence qui peut venir en aide à l'établissement. Donc, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important de penser que l'État, et donc d'une certaine façon tous les citoyens français qui payent leurs impôts en France, a décidé que cette solidarité, elle n'était pas simplement pour les Français, mais elle est aussi pour tous les étrangers qui font confiance à l'enseignement français à l'étranger pour venir aider. Donc toutes les familles en difficulté bénéficient de ce soutien d'ores et déjà. Des commissions se mettent en place. Alors, il y a eu les commissions consulaires des bourses, il y a eu la possibilité pour les familles françaises en difficulté d'adresser ce qu'on appelle un recours gracieux auprès de l'agence pour bénéficier d'une bourse exceptionnelle sur ce trimestre si elle rencontrait des difficultés. Et puis, tous les établissements du réseau ont été invités à mettre en place des commissions d'examen pour les familles en difficulté et pour pouvoir répondre à cette difficulté. Et puis, pour les familles qui ne seraient pas en difficulté, je dirais, extrême, qui amène à mobiliser des fonds, les établissements ont été invités, en tout cas, dans les établissements de l'agence, c'est ce que l'on fait, mais j'imagine qu'il y a des dispositifs de même nature qui ont été pris au lycée Pasteur, d'examiner avec toutes les familles la possibilité d'étaler les paiements, de mettre en place des échéanciers pour les aider à faire face à cette situation. Donc voilà ce qui a été mobilisé. Évidemment, on va suivre attentivement dans les prochains mois ce qui va se passer. Personne n'est en mesure de dire à l'échelle de la planète vers où nous allons exactement dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y aura sans doute à nouveau des rendez-vous où il faudra examiner la situation. Mais pour affronter la crise, les établissements du réseau peuvent aussi s'adresser à l'agence, y compris pour bénéficier d'avances de trésorerie, pour leur aider justement à encaisser dans un premier temps les effets de la crise et pouvoir de cette façon amortir l'effet de la crise en direction des familles pour les aider à maintenir la scolarité. Donc c'est une période qui est très difficile pour beaucoup de familles, nous le savons. Nous sommes à l'écoute, nous essayons de trouver les solutions pour soutenir ces familles dans les établissements avec l'aide de moyens supplémentaires de l'État. C'est quand même 150 millions d'euros supplémentaires qui ont été mobilisés, c'est considérable. Et donc nous allons continuer d'être aux côtés de tous les établissements, des 522 établissements du réseau et en particulier du lycée Pasteur, pour essayer de limiter l'impact de la crise et puis surtout de notre côté de faire tout ce que nous pouvons avec les équipes pédagogiques pour vous aider à malgré cette situation délicate, à poursuivre votre scolarité, même si c'est temporairement sous des formes diverses.
Merci. Alors, encore une question sur le bac. On entend souvent dire que les épreuves du bac à l'étranger sont surnotées. Est-ce vrai ?
Non, les épreuves du bac à l'étranger ne sont pas surnotées. Les résultats sont très bons parce que nos élèves sont très bons. Et donc, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de surnotation dans notre réseau. Ce qui est certain, c'est qu'on a des élèves qui ont des compétences élevées, qui travaillent, je pense, dans de bonnes conditions dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, qui sont très bien accompagnés par des équipes de qualité et surtout très, très motivées, très engagées. Et donc, le résultat se trouve là qu'en moyenne, dans le réseau d'enseignement français à l'étranger, la moyenne doit tourner autour de 98% de réussite au baccalauréat, un taux de mention particulièrement élevé, je crois qu'on est au-delà de 60% de mention bien et très bien. C'est la démonstration que le travail qui est fait est de très très grande qualité. C'est sans doute. C'est bien au-delà des moyennes que l'on constate en France métropolitaine. Hein, on est sur ces deux critères. Et puis, il y a aussi d'autres éléments qui nous font penser qu'il n'y a pas de surnotation. C'est que les anciens élèves des lycées français à l'étranger, en général, font de très très bonnes études supérieures. Quand ils intègrent évidemment le réseau d'enseignement supérieur français, mais également quand ils vont dans des universités étrangères, et y compris dans des grandes universités anglo-saxonnes, etc., où on voit très bien que nos élèves sont bien accueillis, on connaît leur qualité. Et dans un certain nombre d'universités, d'ailleurs, parfois, ça leur évite de passer une première année un peu probatoire et de passer directement dans une année supérieure. Donc, tous ces éléments, je crois, plaident à l'appui de ce constat que non, il n'y a pas de surnotation. Il y a simplement le constat que nos élèves sont des bons élèves, très bien encadrés, qui ont des compétences multiples, qu'ils peuvent développer pendant toute leur scolarité dans l'enseignement français à l'étranger, et qu'en général, ils réussissent évidemment le jour du baccalauréat, mais surtout après, à bien les mettre en valeur pour réussir leur vie. Professionnel, bien sûr, mais aussi, j'espère, leur vie personnelle, parce que c'est aussi l'un des éléments essentiels de l'enseignement français, c'est que ce n'est pas simplement un enseignement d'excellence au plan pédagogique, c'est aussi un enseignement que nous tenons très attaché à un certain nombre de valeurs qu'on pense essentielles pour le développement personnel et puis pour une certaine vision qu'on a du monde et de la vie en société.
À présent, j'aimerais savoir, selon vous, quels ont été et quels sont les enjeux de la continuité pédagogique et de l'enseignement à distance, donc pour vous, monsieur le directeur, à l'échelle globale et pour monsieur le proviseur, à l'échelle du lycée Pasteur.
Alors, ce qui a été mis en place pendant cette continuité, c'est d'abord un choix avec le service informatique début février d'une plateforme. Pour que l'on puisse continuer un enseignement à distance et continuer un lien entre l'élève et sa classe, entre l'élève, la classe et le professeur. Parce que c'était ça l'essentiel, c'est trouver le moyen de garder le lien entre l'enseignant et sa classe. Et donc à partir de là, ensuite, on a réfléchi avec les enseignants, on a travaillé ensemble pour que l'on puisse mettre à la fois en place des rendez-vous avec les élèves. Soit des rendez-vous, soit des cours, et puis soit du travail individuel, plutôt l'après-midi d'ailleurs. Hein. Et puis il a fallu travailler ça sur l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire de la toute petite section de maternelle à la terminale. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes selon les classes, hein, puisque vous avez un enjeu à la fin de l'année, je vous le rappelle. Voilà. Et puis c'est essayer de s'adapter au niveau des élèves. Hein, c'est-à-dire à leur niveau de classe, et puis essayer de trouver le moyen de garder le lien en permanence pour pouvoir faire en sorte que la progression des élèves continue tout au long de l'année. Donc c'est l'école qui continue, une école différente, une école autrement, que l'on espère temporaire, hein, on le redit, hein, parce que le directeur l'a dit tout à l'heure, l'enseignement à distance c'est bien, mais l'école en réel c'est quand même mieux. Hein, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place dès la rentrée d'août. Voilà.
Je crois qu'il y a une chose dont tout le monde s'est bien rendu compte depuis que nous sommes plongés dans cette situation totalement inédite, c'est qu'il y a un endroit qui est absolument essentiel, ça s'appelle la classe. Et que la relation qui s'établit dans le cadre d'une classe entre les enseignants, les élèves, qui est fondée bien sûr sur un transfert de compétences, de connaissances, mais qui est fondée aussi sur une relation intime qui s'établit tout au long de l'année, qui fait qu'on s'apprécie, qu'on se fait confiance, que l'on construit ensemble une relation. Ça, c'est quand même une des bases de l'enseignement, et c'est irremplaçable. Si parfois on peut lire des théories sur le monde du 21e siècle, où on passerait uniquement dans des modes de transmission et de formation par l'intermédiaire des outils numériques, des réseaux sociaux, etc. On voit bien qu'il manque quand même une part importante qui s'appelle la relation humaine directe, qui s'établit dans une classe, et je pense que vous en êtes bien conscient, vous qui vivez depuis plusieurs semaines dans cet éloignement qui vous pèse sans doute et qui pèse aussi, je sais, à vos enseignants, parce qu'eux aussi, ils ont hâte d'être à nouveau dans une classe et d'être à nouveau au contact de leurs élèves. Donc ça, c'est un constat évident, et nous n'avons jamais pensé, ni même jamais cherché, à dire que la classe allait être remplacée par la continuité pédagogique ou même par l'enseignement à distance. On a essayé de trouver, dans un contexte qui nous est imposé par cette crise sanitaire majeure, on a essayé de mettre en place un dispositif qui vous permette de poursuivre l'atteinte des objectifs qui sont fixés à chaque niveau scolaire par d'autres moyens. Et donc ça a été toute une construction intellectuelle, pratique, qui a été conduite dès qu'on a été confronté à la fermeture des premiers établissements. Et vous savez que ça a commencé il y a longtemps maintenant, puisque les premiers établissements du réseau d'enseignement français qui a fermé, c'était fin janvier, en Chine, au Vietnam. Mais on a tout de suite travaillé beaucoup avec les équipes sur place pour construire la continuité pédagogique. Et puis, tout le travail qui a été fait a pu être mis à disposition de tous les établissements du réseau ensuite. Et on n'a pas arrêté de l'enrichir, avec pour objectif de soutenir toutes les équipes pédagogiques dans tous les établissements, soutenir bien sûr les équipes de direction qui sont d'abord un petit peu à la manœuvre, qui sont le chef d'orchestre de la mise en place de tout ça, et puis soutenir toutes les équipes pédagogiques pour avoir une réponse cohérente, une réponse qui tienne dans la durée et une réponse qui ne perde pas de vue ce que l'on cherche, c'est-à-dire de ne pas remplacer stricto sensu la classe. Ça, on ne peut pas y arriver. Mais d'atteindre les mêmes objectifs avec d'autres moyens, et donc dans une alternance entre des consignes, des connaissances, des projets qui sont transmis aux élèves, qui du coup sont appelés à avoir un travail personnel beaucoup plus intense que peut-être en temps normal. Mais à cet égard, ce que je note, par exemple, des conseils de classe qui se tiennent actuellement dans un certain nombre d'établissements, c'est que beaucoup d'enseignants se disent épatés, presque, de voir à quel point leurs élèves ont gagné en autonomie, sont devenus beaucoup plus grands en quelques mois, ont acquis en maturité et en autonomie de travail. Donc ça, ce sera peut-être l'un des aspects bénéfiques de cette période si curieuse que nous vivons actuellement. Et ça, c'est un point important. Mais voilà, donc il y avait la construction d'un projet pédagogique que l'on transmet à distance, une grande importance attachée à maintenir le lien avec les élèves. Alors, ce n'est pas obligatoirement en les scotchant pendant 8 heures par jour devant Zoom, mais en ayant un échange régulier de chaque enseignant avec ses élèves, de voir s'il comprend bien, s'il suit bien, s'il a des questions, etc. Puis de relancer, de l'aider à construire sa progression individuelle dans l'appropriation de l'ensemble des connaissances qu'il doit acquérir. Donc tout ce travail, il a été construit pour tenir dans la durée pour vous, parce qu'il fallait faire attention à ne pas vous submerger dans une charge de travail que vous n'auriez pas supportée. Pour les enseignants eux-mêmes, parce que c'est un travail supplémentaire très important qui leur a été demandé, de réflexion, de construction du processus pédagogique. Il fallait qu'ils tiennent aussi dans la durée. C'est fatigant. Je crois que le travail qui a été fait donne des résultats satisfaisants. Pour vous donner une idée, durant les 3 derniers mois, les enseignants formateurs de l'AEFE, qui travaillent sous l'autorité du service pédagogique de l'agence, ont effectué plus de 80 000 missions de formation et de soutien au bénéfice de leurs collègues qui sont dans les établissements pour justement les aider à se mettre à niveau, à progresser, à maîtriser tous les outils, à aller plus loin la mobilisation de nouveaux instruments, de nouveaux outils. Les partenariats qu'on a avec, par exemple, le CNED ou avec d'autres fournisseurs de matériaux, de données, etc., on les a utilisés à plein pour que vos enseignants puissent s'appuyer dessus pour vous aider. Donc voilà un petit peu toute la logique qui a été menée. Je pense que le résultat est plutôt bon. Il peut y avoir des problèmes particuliers, des problèmes ponctuels. Ça, je cherche avec 370 000 élèves dans le réseau et 522 établissements, je peux pas dire que tout a été absolument parfait partout. Mais ce qui était important pour nous, c'était de bien suivre et d'essayer d'améliorer sans cesse ce qui était fait. Ce qui a été très difficile, c'est clair, c'est pour les tout petits, les enfants de maternelle, tout ça, parce que l'affaire de l'enseignement à distance et de la continuité pédagogique, c'était un sacré challenge. Mais plus on avance en âge et plus l'interaction entre les équipes enseignantes à distance et les élèves, je pense, a pu être efficace. Et on va continuer, si on est obligé de continuer dans l'enseignement à distance, on va continuer non pas à se reposer sur nos lauriers actuels, mais à toujours progresser dans la réponse. Et donc, ce qui est très important, c'est aussi votre retour, qu'avec vos enseignants, avec l'équipe de direction, on est vraiment à l'écoute de ce que vous nous dites sur ce qui se fait, sur ce que vous jugez bien, positif, sur ce que vous jugez moins bien, sur les pistes que vous nous suggérez d'examiner pour améliorer. On travaille là nécessairement dans une interaction permanente avec vous, avec vos familles bien entendu, mais avec vous les élèves, c'est fondamental. C'est à vous de nous dire quand ça va et quand ça va pas. Et à nous d'être à l'écoute pour essayer d'améliorer. Je suis ravi de pouvoir vous dire un petit peu ma vision des choses et vous expliquer un petit peu ce qu'on cherche à faire et ce qu'on cherche à améliorer. Mais ce qui est très important, c'est vous, ce que vous me disiez comment vous vivez cette période, qu'est-ce que vous jugez de positif, qu'est-ce que vous jugez qui peut être amélioré, sur quoi c'est important de travailler. Je pense que pour le proviseur et pour les équipes, c'est aussi extrêmement important.
La plupart du temps, c'était assez bien réussi et qu'on a pu continuer les cours presque, je dis bien presque comme en classe et que on n'a pas vraiment perdu en qualité. Par contre, ce qui a parfois été un peu plus dérangeant, c'est que bon, on a un peu plus du mal à se concentrer face à un ordinateur que quand on est en classe avec le professeur. C'est pas la même dynamique, on se déconcentre plus facilement. Et parfois aussi, les professeurs vont un peu plus vite puisqu'ils nous voient pas, donc ils savent pas à quel rythme on avance. Mais bon, il suffit de les arrêter et tout va bien. Mais je pense que dans les limites de ce qui peut être fait, tout a été fait au mieux, donc tout se passe bien.
Vous n'êtes pas obligé de dire que du bien, hein?
Moi, personnellement, j'ai pas vu de grand-chose de négatif. À part, oui, j'ai un petit peu personnellement des difficultés à maintenir le rythme derrière l'ordinateur. Mais juste ça, je dirais juste ça.
Ça rejoint quelque chose que je vous disais, hein, dans ma présentation, c'est que c'était vraiment un souci pour l'ensemble des équipes pédagogiques et pour tous ceux qui leur fournissaient un soutien, c'était penser à la capacité des élèves à suivre ce rythme très particulier et à l'intensité du travail sur un ordinateur qui est très différente de celle que l'on a en classe. C'était très important pour nous de construire un projet pédagogique adapté dans chaque établissement qui tienne bien compte de ce que les élèves peuvent effectivement suivre. Parce que sinon, l'un des risques qu'il y avait, c'était de vouloir partir un peu, vous savez, comme le lièvre et la tortue, hein, mais de partir un peu comme le lièvre à fond, à gaver les élèves en leur disant, voilà, on vous remplace vos 8 heures de cours par 8 heures devant votre ordinateur, et même au-delà, parce que finalement, une journée, c'est 7 heures, 6-7 heures de cours, et puis c'est du travail personnel ensuite. Et c'était très important pour nous, avec les équipes, avec vos enseignants, de construire un projet qui tienne dans la durée, parce que malheureusement, on savait qu'il fallait s'inscrire dans la durée, que ce n'était pas une question d'une semaine ou de 15 jours, et que c'était très important. Donc, ce que vous me dites me confirme que notre analyse initiale était quand même assez fondée, et que manifestement, le résultat, les corrections permanentes, l'échange avec les enseignants a permis d'aller dans ce sens-là.
En ce fin de semestre, c'est un peu dur de suivre les cours parce que ça devient assez lourd émotionnellement. Et je pense que nous, personnellement, les ES, il n'y a pas beaucoup de cours qui ont sauté, qui se sont effacés en fait. Il y a juste quelques cours de langue qu'on n'a plus. Mais en fait, nos journées en fait, sont quasiment identiques à l'école. Et la seule chose qui manque, c'est une récréation pour voir nos amis. Mais sinon, genre, tout va bien. Les professeurs, ils sont à l'écoute. On peut leur parler et on peut se confier à eux. Mais après, le lycée, il nous a bien préparé aussi, je pense, à ne pas abandonner et à être autonome.
Non, mais c'est très important ce que vous dites. C'est très positif et important. Et puis, ce temps du lien social, il est important. Donc, j'imagine que vous le maintenez chacun à votre niveau. Avec WhatsApp, Zoom ou tout ça avec vos camarades, hein, c'est important. Je crois que c'est important aussi, je ne sais pas si ça se fait, monsieur le proviseur, mais j'imagine que oui, que les professeurs aussi, de temps en temps, laissent leurs élèves dans le cadre de la classe virtuelle, mais avoir aussi ce temps de récréation dont vous parlez très justement, qui fait partie de la vie et qui est indispensable pour justement pouvoir... Je sais qu'il y a des établissements, je ne sais pas si ça se fait comme ça chez vous, où justement, dans le cadre d'un cours habituel, il y a un moment donné, le prof décroche pendant un quart d'heure et laisse les élèves vider leurs sacs, raconter leurs histoires, simplement échanger entre eux pour se faire du bien, comme on le fait quand on sort de classe, qu'on est dans le couloir ou dans la cour de récréation et qu'on passe un petit moment de détente. Donc, c'est très important, non seulement d'avoir des relations individuelles, que ça, j'ai aucun doute que vous les entreteniez, mais de rester aussi dans cette ambiance de classe très particulière.
Après, ce qui est dur aussi, c'est les intercours, puisque en fait, on n'a plus de sonnerie vraiment. Et du coup, les professeurs débordent un peu et après, on enchaîne directement sur un cours.
Ah oui. Vous n'avez même pas le temps de boire un café, ce qui au Brésil est quand même difficile. Peut-être, monsieur le proviseur, est-ce que vous voulez quelques mots de conclusion ou de bilan ou de...
D'abord, je vous remercie, monsieur le directeur, de nous avoir consacré du temps et puis d'avoir pris le temps d'écouter les élèves de l'établissement pour une période effectivement qui est longue maintenant pour l'ensemble des élèves du réseau et puis pour les élèves de l'établissement en particulier. Ça fait 4 mois et demi que l'on travaille en enseignement à distance. Avec, selon les pays, des incertitudes, des informations différentes. Donc, c'est vrai que le choix d'avoir maintenu notre calendrier scolaire fait que les pauses arrivent au bon moment et je crois que nous allons rigoureusement suivre vos instructions de déconnecter pendant le temps des vacances.
Allez, vous n'avez pas le choix, je vous y oblige, je vais vous surveiller.
Voilà. Et puis aussi vous dire que finalement, je crois que l'école, elle a maintenu le lien avec les élèves et que c'est l'essentiel parce que l'école, c'est vraiment fondé sur le lien entre les enseignants et les élèves qui développent leur pédagogie. On l'a développé d'une façon différente, ici comme ailleurs dans le réseau. Et ce qui est bien, c'est que l'école, finalement, est restée la référence et qu'au final, ce qui s'est passé dans ces circonstances incroyables, c'est que l'enseignement à distance a permis à toute la famille de structurer sa journée aussi sur l'école, de la toute petite section maternelle à la terminale, de se lever le matin parce qu'il y avait des cours à 8 heures, voilà, et ça a parfois été fait exprès, et puis de dire que finalement les enseignants ont été la référence, l'école a été la référence, et que tout ce travail, c'est une bonne promotion pour l'école et pour le réseau à l'étranger. Voilà.
Merci, monsieur le proviseur, et voilà, moi j'en profite bien sûr pour féliciter tous les élèves, hein, pour leur sérieux, pour leur engagement, et leur dire que je sais que c'est difficile, hein, et pour vous, pour les plus jeunes aussi, hein, j'ai vraiment une pensée pour les plus jeunes de l'école maternelle, de l'école primaire, du collège, voilà, pour tous ça a été, c'est une période tellement, tellement surprenante et tellement exigeante, donc c'est vraiment important. Vous dire aussi que j'ai une pensée aussi pour tous les parents, hein, parce que c'est une période compliquée pour eux. Ils ont des soucis dans la vie quotidienne qui sont liés à cette crise. Et déjà, en soi, c'est quelque chose de très prenant, qui peut créer de l'inquiétude. Ils ont à gérer leur vie professionnelle et puis à s'occuper de leurs enfants à la maison. Ça fait beaucoup de choses qu'on leur demande. Et c'est la qualité de la relation que les équipes entretiennent avec les parents aussi qui permet de créer cette dynamique collective absolument indispensable. Un mot et une pensée pour tous les enseignants, parce qu'ils ont été au rendez-vous. Et je crois que c'était vraiment extrêmement important. Et ce n'était pas évident, parce que certains, peut-être, étaient très à l'aise avec ces outils, d'autres moins, parce que on a plus ou moins d'appétence pour travailler avec ces outils numériques, parce qu'il y a des différences de génération, etc. Mais tout le monde, avec ses moyens, a relevé le défi, et ce que vous me dites montre que, en tout cas, au lycée Pasteur, manifestement, les choses sont allées dans un très, très bon sens et de façon très positive. Et puis, vous remerciez Monsieur le Proviseur, remerciez toute l'équipe de direction, remerciez les personnels administratifs qui ont continué d'accompagner tout le monde pour que le lycée Pasteur, comme tous les autres lycées, il a peut-être été fermé physiquement, mais il n'a jamais été fermé, en fait. Il a toujours continué de tenir sa place, son rôle, d'assumer sa mission, et c'est grâce à toute cette mobilisation assez extraordinaire que je veux vraiment saluer. Et je suis vraiment heureux d'avoir eu cet échange avec vous. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir pris l'initiative et d'animer la web radio avec les élèves. C'est une belle occasion d'échanger avec vous. J'espère qu'un jour, je pourrai venir pour de vrai à São Paulo, voir votre beau lycée, surtout que je sais qu'il a des projets aussi de développement tout à fait intéressants. Et j'aimerais bien les voir en vrai. Donc voilà, on ne peut pas prendre l'agenda pour le moment pour fixer une date, mais en tout cas je l'ai bien à l'esprit, et l'entretien que j'ai eu avec vous et tout ce que j'ai entendu sur ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement dans votre lycée me donne encore plus envie un jour de venir vous voir. Donc en tout cas, bonne fin d'année scolaire à vous, enfin pas fin d'année scolaire, fin de trimestre plutôt, en attendant quelques semaines de repos bien mérité. Reposez-vous bien. Bonne chance pour le dernier trimestre ensuite, pour préparer votre baccalauréat, quelle qu'en soit la forme. Et puis, à bientôt, d'une façon ou d'une autre, je l'espère. Merci beaucoup.
RSP.
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 RSP. Radio São Paulo.
Littérature.
Histoire.
Culture.
Philosophie.
Politique. La web radio du lycée Pasteur. RSP.
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 RSP. Une radio parlée pour les lycéens.